Mais c'est pour nous un rappel. C'est pour nous un souvenir. C'est pour nous un pilier dans notre vie de foi et dans notre réalité autant qu'enfant de Dieu que de nous rappeler ce qui a été le prix payé pour notre salut. Si nous sommes sauvés, c'est par grâce. Amen. Cela ne vient pas de nous, c'est un cadeau de Dieu, mais il faut accepter le cadeau. Que personne ne puisse ce matin se dire « mais moi je n'ai pas pu prendre le pain et le vin ». Cela est réservé, et la parole de Dieu le dit, à ceux qui ont été baptisés par immersion selon l'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que les choses doivent être faites et rappelées, parce qu'il n'est pas question pour nous de faire autrement que ce que la parole de Dieu nous enseigne. Amen. Et pour ceux qui encore n'ont pas cette joie de pouvoir prendre le pain et le vin, mais moi je voudrais vous inviter à vous engager avec Dieu, à vous baptiser, et après rien fera obstacle que vous puissiez vous aussi prendre le pain et le vin, et ainsi vous aussi, dans votre vie, dans votre manière d'être, dans votre manière de faire, rappelez pas seulement pour vous, mais aussi à ceux qui vous entourent, que Christ, le Seigneur, est mort pour nous donner le salut, pour nous accorder la guérison. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais m'entretenir sur un thème qui est sur ta parole. Luc chapitre 5, versets 1 à 7, c'est le premier texte de notre partage de ce matin, qui nous rappelle l'importance de la parole de Dieu, la parole que Dieu nous donne, la parole que Jésus nous communique. Il est intéressant pour nous et important pour nous de comprendre que nous sommes dépendants de la parole de Dieu. Amen. Lorsque nous nous mettons autre, au loin de la parole de Dieu, nous sommes plus sous la bénédiction de Dieu. À l'image d'un parapluie, dès que vous vous mettez à l'extérieur, vous vous mouillez. La parole de Dieu est celle qui finalement nous garantit d'avoir accès, si nous obéissons en tout et pour tout, à toutes les promesses que Dieu a faites, mais aussi à toutes les bénédictions. Lorsque nous prenons le choix de nous en écarter, on ne peut pas citer la parole de Dieu pour nous faire valoir devant les hommes, voire même devant Dieu en disant « mais il y a écrit ceci », en oubliant tout ce qui est écrit aussi autour, donc le texte sans contexte, parce qu'autrement on en fait un prétexte, n'est-ce pas? Alors ce matin, j'aimerais avec vous, ensemble, examiner cette pensée par rapport au fait que quand Dieu nous dit quelque chose, si nous sommes obéissants, ça marche. Amen. Il dit la parole de Dieu, comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézaret, il vint au bord du lac deux petites barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent remplir les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Amen. Alors, en lisant ce texte, nous on le lit comme ça, on se dit c'est comme si c'était une scène normale, naturelle. Mais j'aimerais que nous nous remettons un peu dans le contexte. Jésus commence à évangéliser. Pour l'instant, il n'avait pas encore choisi ses disciples. Il est là, il arrive près d'un lac, il voit deux barques dont les pêcheurs viennent de sortir finalement après une nuit où ils n'ont rien pris, ils sont rentrés bredouilles. Ils sont en train de laver les filets pour se dire « après, on va se coucher ». C'est l'heure de se reposer après le travail, c'est normal. Et n'importe qui, encore aujourd'hui, une fois qu'il a fini son travail, il souhaite rentrer se reposer, surtout si le travail était de nuit. Et là, la parole de Dieu nous dit que Jésus monte sur une barque, celle de Simon, et il demande à Simon de s'éloigner un peu du rivage parce qu'il y a trop de foule. Il ne peut pas prêcher dans ces conditions. Et là, Jésus profite pour partager une parole. Simon n'avait jamais rencontré Jésus jusque-là. Simon n'avait même pas entendu parler de Jésus jusque-là. Et ce jour-là, ce Jésus venu de nulle part, il monte sur son bateau et lui demande de s'écarter du rivage. Imaginez que quelqu'un monte dans votre voiture et vous dit « va un peu plus loin ». Vous allez faire quoi ? Si ce n'est lui dire « écoute, tu es qui ? Tu fais quoi dans ma voiture ?» Non ? Alors peut-être que la personne, elle s'est trompée. Hein, elle s'est trompée, elle est montée dans la mauvaise voiture. Des fois, on peut se tromper dans les parkings, on cherche notre voiture. Mais là, il n'y a pas d'erreur. Jésus est monté sur la barque d'un certain Simon. Et il lui demande quelque chose et Simon entend. Sommes-nous prêts à entendre ce que le Seigneur a à nous dire ce matin ? Vraiment ? Ou est-ce que nous avons des arguments pour placer devant ce que Dieu pourrait nous dire en disant « oui, mais ». On a toujours des « oui, mais ». Moi, je vous assure, je reçois des coups de téléphone avec des « oui, mais » à l'appel. Quand vous dites à quelqu'un « mais vous allez aux réunions de prière ?»« Oui, mais ». »« Est-ce que vous allez à l'église ?»« Oui, mais ». Non, non, pas le 8 mai, aujourd'hui, le 2 mai déjà, ça serait pas mal. 2 juin, oh là, je suis en décalage total moi. Hein. S'approcher de Dieu, on a toujours des mais. On a toujours des raisons que nous essayons de mettre en avant, en disant voilà la raison pour laquelle je ne peux pas. Pierre aurait pu dire au Seigneur, Seigneur, je ne peux pas. Je suis fatigué. En plus, j'ai rien péché. Encore, si j'avais péché, je pourrais me dire, allez, je suis content, j'ai gagné ma journée, mais là, je rentre pour moi et pour tous ceux qui travaillent avec moi, avec zéro prise. Un pêcheur qui rentre sans poisson, ça le fait pas trop. Mais Pierre, il est pas comme ça. Et pourtant, Pierre, il avait quand même un caractère, non ? Et Pierre obéit à ce que le Seigneur lui demande. Il s'éloigne et il entend le message prêché par Jésus. On n'a pas les paroles que Jésus a prononcées. Néanmoins, on en voit un fruit. Lorsque nous entendons la parole de Dieu, Dieu n'envoie pas sa parole en vain. Elle doit apporter le fruit pour lequel Dieu l'a envoyée. Elle doit apporter quelque chose dans notre vie qui va finalement nous permettre d'accéder à une grâce, à une bénédiction de la part de Dieu. Et Pierre a compris. Malgré que Pierre ne savait ni lire ni écrire, il a compris. Pierre, il a compris que ces paroles qu'il vient d'entendre de la bouche d'un homme qu'il ne connaissait pas, c'est des paroles qui viennent de Dieu lui-même. Lorsque nous nous approchons de la parole de Dieu, lorsque nous lisons la Bible, c'est la parole de Dieu. Elles viennent de Dieu lui-même. Je n'ai pas à les remettre en question, je n'ai pas à les discuter, je n'ai pas à mettre des mais, je n'ai pas à essayer de trouver une faille. Je devrais me dire, Seigneur, si ta parole dit ainsi, mais je fais ainsi. D'ailleurs, Pierre, qu'est-ce qu'il fera ? Il dira, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Les conditions, elles n'étaient pas bonnes, hein, je vous assure. En plein jour, on ne jette pas les filets. Hein. S'ils n'ont rien pris pendant toute la nuit, ce n'est pas le jour qu'ils allaient prendre quelque chose. Et Jésus lui dit, va un peu plus en profondeur. Ça veut dire que les poissons, ils étaient déjà descendus beaucoup plus bas. Et il aurait pu dire, mais Seigneur, ce n'est pas favorable pour nous, parce qu'après, pour les tirer sur le rivage, ça va être compliqué, Seigneur. Nous, on cherche toujours ce qui complique les choses, n'est-ce pas ? Quand quelqu'un nous parle de quelque chose, nous ne sommes pas de ceux qui cherchent tout de suite la petite bête, ce qui fait obstacle, ce qui pourrait empêcher. Mais Pierre dit, Seigneur, sur ta parole, qu'est-ce que je fais ? Je jetterai les filets. Amen. Des filets tout propres. Des filets qui étaient rangés pour la prochaine sortie. Mais Pierre dit, si le Seigneur a dit, je le fais. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en l'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons, au point de devoir demander à d'autres de venir. Ils obéirent. L'ayant fait. Sommes-nous prêts à faire ce que Dieu nous demande ? On dit oui. Mais excusez-moi de rajouter mais. Mais souvent, on est là, on est dans l'incompréhension. Et pourtant, pourquoi le Seigneur a décidé de faire comme ça ? Il aurait pu demander aux poissons de sauter directement dans la barque. Ben oui, je vous assure. Ça peut, hein ? Non ? Il n'y a pas de souci pour le Seigneur. Nous, on cherche toujours quelque chose qui, finalement, il nous amène à vivre les bénédictions sans passer par l'étape où nous prenons part à l'action. Un pas de foi. Pierre va faire un pas de foi. Et ce matin, mon frère, ma sœur, ou vous qui êtes là pour la première fois, je voudrais vous encourager à faire un pas de foi vers le Seigneur. Parce que lui, il sait ce qu'il nous dit, il sait comment il fait les choses. Alors, des paroles étranges dans la parole de Dieu, il y en a plusieurs. J'en ai choisi quelques-unes pour la partager avec vous. On va parler d'un plan étrange. Josué chapitre 6, versets 1 à 5. Un plan vraiment étrange au niveau technique de guerre. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui les armées diraient que c'est cohérent. Il dit le texte, Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre. Vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront du cor. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son du cor, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors, les remparts de la ville s'écroulera sur lui-même et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Quel plan de bataille, non ? Une stratégie étonnante. Vous allez auprès de quelqu'un qui a fait l'armée, il va vous dire c'est de la folie pure. C'est de la pure folie. Lorsque j'ai fait mon service militaire, je me suis trouvé dans la première caserne d'Italie où il y avait tous les chefs d'état-major et qui, moi je disais, ils jouaient aux petits soldats. Parce qu'ils avaient des pièces énormes où il y avait des champs de bataille et là, ils simulaient les conflits qu'ils étaient passés pour apprendre à gérer ou voir quelle avait été la bonne stratégie. Et je les voyais toute la journée là, jouer avec leurs petits soldats. Moi, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que c'est cette histoire, hein? Et j'ai discuté avec un capitaine et je lui ai dit, écoutez, j'ai une technique à vous proposer. Jéricho. Ah, il dit, non, ça ne peut pas marcher. C'est vous qui le dites. Pour quelle raison Dieu a donné une telle, je dirais, manière d'agir, une telle stratégie au peuple? Ce peuple qui vient finalement de faire une marche longue de 40 ans dans le désert, qui vient juste de passer finalement pour rentrer dans la terre promise, et le premier obstacle devant laquelle il se trouve, c'est Jéricho. Une ville qui nous est dit dans le texte, Jéricho était barrée et barricadée à cause des Israélites. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'ils sont partis avec des pelles et des pioches? Non. Une marche silencieuse pendant 6 jours, jusqu'au 7e jour. C'était une forme de témoignage, non? Vous ne croyez pas? Et certainement qu'au-dessus de ces remparts, les hommes et les femmes de Jéricho devaient dire des choses pas sympas. Devaient peut-être balancer même des choses depuis en haut. Rire à cause du témoignage du peuple. Dans la parole de Dieu, il nous est dit que dans les derniers temps, beaucoup auront honte de moi, dira le Seigneur. Et moi, j'aurai honte d'eux devant Dieu. Le texte, il n'est pas cité à la perfection, mais le sens, il est là. Et si Dieu nous demandait finalement d'être de témoignage avant de prendre des victoires? Parce que certes, Dieu aurait pu faire tomber la muraille d'un coup. Hein? On arrive devant la muraille, Seigneur, fais tomber la muraille. Amen. On est tous comme ça quand on a un combat, quand on a une difficulté. On aimerait que Dieu fasse les choses d'un coup, d'un seul. Seigneur, après on peut rentrer à la maison, on est victorieux, tout va bien. Mais pendant 6 jours, ils ont dû tourner en rond. Et parfois on a le sentiment de tourner en rond avec Dieu. Mais je voudrais vous dire, même quand Dieu te demande de tourner en rond, tu avances. avance. Parce qu'il y a un moment où Dieu a déjà prévu comment il va faire les choses. Et c'est sa stratégie à lui qui va réussir. Et parce qu'ils ont obéi, parce qu'ils se sont tenus à ce que Dieu avait dit, il dit la parole de Dieu qu'au septième jour, la muraille s'est écroulée. Waouh ! Ce n'est pas par un tremblement de terre. Non. Ce n'est pas par des marteaux-piqueurs, ce n'est pas par des armes, non. C'est par l'obéissance à la volonté de Dieu. Il y a des murailles qui s'érigent dans ta vie, tu as besoin d'apprendre à obéir au Seigneur et lui fera tomber les murailles. Oui, mais ce n'est pas facile. Oui, mais justement, c'est là que tu vas montrer ton témoignage et ton attachement à la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu aura un effet dans ta vie au point de faire tomber les murailles qui aujourd'hui s'érigent et qui t'empêchent d'avancer. Mais il faut prendre la peine d'écouter ce que Dieu a à nous dire. On va voir aussi une autre histoire dans le livre des Juges au chapitre 7. On voit que là aussi, encore une fois, une question de combat. Et pour Gédéon, il est question de réduire les effectifs. Quelle stratégie ? Pourquoi Dieu me dit de me démunir alors que le but c'est quand même d'arriver à remporter la victoire ? Pourquoi Dieu demande ce genre de choses ? Certainement parce que Dieu veut que tu puisses aussi considérer que la victoire, il lui appartient et n'est pas à toi. Il te fait rentrer dans sa victoire, mais tu rentres selon ses règles. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Alors je vous rappelle que si vous prenez les chapitres d'avant, vous voyez qu'il est question finalement d'un peuple qui étaient nombreux comme les sauterelles. Ils arrivaient, ils étaient tellement nombreux que les Hébreux, ils étaient obligés de se cacher. Et là, il lui dit, vous êtes trop nombreux. Il dit, fais-les descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai, celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et tout homme dont je te dirai, celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Il fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lapent les chiens, place-les à part de tous ceux qui mettent à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent un nombre de 300 hommes et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire l'eau. L'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Amen. » Non, Seigneur, non, 300. T'en renvoies là combien, Seigneur ? Déjà, tu as trié une première fois, tu tries une deuxième. Là, déjà, on n'est pas nombreux. Ça va à la fois, mais Seigneur, à un moment, c'est de la folie, c'est plus de la foi. Mais folie et foi, ça commence par la même lettre, non ? Non ? Je me trompe ? Et la foi, c'est quoi finalement ? C'est croire en quelque chose qu'on ne voit pas encore, non ? Placer la foi en Dieu, c'est placer la foi en quelqu'un qu'on ne voit pas physiquement. Et certains nous diront, mais t'es fou. Mais ce qui est folie pour les hommes, si elle est sagesse de Dieu. Amen. Que Dieu nous garde de suivre et de considérer folie les choses de Dieu pour suivre les pensées du monde. Parce que c'est là qu'on s'égare. Et Gédéon, lui aussi, malgré tout, alors que lui venait de faire tout un discours devant l'ange de l'Éternel, lui dit, mais comment tu veux que j'aille ? Parce que l'ange de l'Éternel, il dit, va avec la force que tu as. Gédéon, il dit, je suis le plus petit, de la plus petite des familles, et toi, tu me dis d'aller, où est-ce que je vais, Seigneur ? Vous savez, ce problème d'infériorité que beaucoup ont, beaucoup dans le monde chrétien ont dit, Seigneur, moi je suis le plus petit, il y en a d'autres devant moi qui puissent élever leur voix pour nous tous. Amen. Seigneur, il y en a d'autres qui puissent aller témoigner pour nous, ils sont bien, Seigneur. Et nous, on se dit, Seigneur, moi je suis trop petit. Mais Seigneur voudrait dire ce matin à ceux qui se sentent les plus petits, ou tout simplement parce qu'ils sont petits, soyez grands dans le Seigneur. Amen. C'est pas une question de hauteur ou de largeur, hein, c'est pas ça du tout. C'est une question de foi en Dieu. Et finalement, Gédéon, il va faire quelque chose, il va faire une expérience avec Dieu qui va l'amener à vivre une grande victoire. Et Gédéon, si vous regardez bien la manière où il va agir, donne-moi un signe, on va se dire, c'est un homme quand même qui a beaucoup de crainte. Y a-t-il parmi nous des personnes qui ont beaucoup de crainte? Oui, non? On va lever la main? Non. On a craint, on a peur. Et si Seigneur, ce matin, te disait qu'il faut que tu arrêtes de te baser sur le fait d'avoir une assurance que tu peux voir avec tes yeux, mais tu dois apprendre à croire aux paroles de Dieu. Parce que c'est ce que Gédéon va s'entendre dire. Tu prendras ces 300 hommes et avec eux, on aura la victoire. Mais Seigneur, c'est une foule. C'est pas possible. Au niveau numérique, c'est perdu d'avance. Non? Au niveau humain, au niveau de réflexion humaine, c'est impossible. Sauf que Dieu avait déjà tout prévu d'avance. Vous voulez savoir la suite? Ben, lisez la suite dans la parole de Dieu. Une autre épreuve pour notre foi. Parce que ce que je suis en train de vous partager, c'est des choses qui arrivent dans la vie de chaque chrétien, dans son cheminement avec le Seigneur. Examinez bien les textes et vous verrez bien qu'à un moment ou à un autre, vous êtes passé par là. Alors là, je voudrais vous encourager à dire, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Est-ce que tu as entendu la parole de Dieu ou est-ce que tu as laissé tes craintes te gagner? On va voir un autre homme, un homme de Dieu. Un homme de Dieu, nous en avons parlé il y a quelque temps, mais on va reprendre ce texte en 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 15. Alors la parole de l'Éternel fut adressée. Et je tiens à mettre ce point-là. La parole de l'Éternel fut adressée. Quand Dieu a quelque chose à nous dire, il sait comment nous le dire. N'est-ce pas ? Soyons attentifs, soyons à l'écoute de la parole de Dieu, non pas de ceux qui se ramènent par toutes les voies. Aujourd'hui, des fois, vous regardez des messages qui arrivent sur Internet, par Facebook et tout ce que vous voulez, et je me dis, où est la parole de Dieu là? Il y a un climat avec une petite musique, une petite mélodie, vous êtes en train de vous dire, je ne sais pas si c'est du New Age ou je ne sais pas quoi, et on veut me faire croire que c'est la parole de Dieu. Non, attention, la parole de Dieu, il n'y a pas forcément besoin de la petite musique au fond. Lis-la, place-toi devant le Seigneur te dira aussi ce que tu as besoin d'entendre. Avec ça, je ne veux pas dire que tous les messages ne sont pas bons, mais attention à la source. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi et va à Sarepta qui appartient à Sidon, reste-y. Voici que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Il se leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un récipient afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta maison. » Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Mais voici... en train de ramasser deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas, jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. » Elle alla faire selon la parole d'Élie et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi que lui. Amen. Quelle épreuve pour un homme de Dieu de devoir dépendre d'une femme qui, malheureusement, était en plus veuve. C'était normalement au peuple de prendre soin des veuves et des orphelins. Et là, Dieu dit finalement à cet homme de Dieu, tu vas et c'est elle qui va te donner à manger. Juste avant, c'était les corbeaux qui lui ramenaient à manger. Et dans cette épreuve, dans cette expression de foi, certes la foi de cet homme de Dieu, elle va être mise à l'œuvre, mais il y a aussi la foi de cette femme. Cette femme qui, il s'était dit, tout ce qui me reste, c'est une poignée de farine et un peu d'huile. Pas grand-chose. Certainement, ces heures, elles devaient être tragiques pour elle, difficiles, parce que se dire, là, c'est le dernier repas, après quoi il ne nous reste que de mourir. Quelle vision terrible de l'avenir. Combien aujourd'hui n'ont de l'avenir qu'une vision terrible et horrible, parce qu'on entend des choses autour de nous qui nous font craindre l'avenir, n'est-ce pas ? Guerre, bruit de guerre. On entend des tremblements de terre, on entend de tout ce qui se passe, on se dit, mais finalement, c'est une horreur. Certains m'ont dit, vous savez, pasteur, on n'aura pas d'enfants, le monde n'est pas prêt, on ne peut pas avoir d'enfants. Mais moi, je voudrais vous dire, si vous faites ça, vous ne faites que entendre l'ennemi. Parce que les enfants, c'est une bénédiction de Dieu. Et si vous laissez l'ennemi conditionner votre vie, c'est que vous ne croyez pas suffisamment au projet de Dieu pour votre avenir et pour votre vie. Cette femme, elle est là parce qu'elle n'avait pas encore reçu une parole de Dieu. Mais lorsqu'elle a reçu une parole qui venait de Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme ? Elle a donné ce qu'elle avait. Elle a préparé un gâteau. Elle avait préparé pour, elle avait prévu pour elle une recette, mais lui voulait un gâteau. Étonnant, hein ? Tu fais d'abord un gâteau pour moi et après tu mangeras. Et c'est Dieu nous demander de le mettre en avant, d'abord lui et après le reste. Je l'ai déjà dit et je n'arrêterai pas de le dire. Quand on s'occupe des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de nos affaires. Croyez-moi, il ne vous laissera jamais, vous entendez, jamais mourir de faim. S'il faut, même les corbeaux, ils vous en ramèneront de la bonne viande. Amen. Jamais le Seigneur laissera un de ses enfants tomber. Mais il y a un moment où Dieu te dit maintenant, ta foi, jusqu'à où tu es prêt véritablement à la mettre en œuvre. Seigneur, mais c'est tout ce qui me reste. Fais confiance. Comme cette veuve qui a mis ce qu'elle avait. Certaines traductions diront, elle a mis toute sa vie. Elle a donné ce qu'elle avait. Nulle part il y a écrit que cette femme, elle est morte de faim. Pourquoi ? Parce que Dieu est fidèle à sa promesse. Et là, cette femme, elle va prendre cette parole pour elle. Elle va agir d'une manière qui est cohérente, spirituellement, mais humainement. Vous auriez fait quoi ? Vous devez choisir entre nourrir une dernière fois votre fils ou nourrir un étranger qui vient et qui vous dit « Dieu m'a dit ». Ah, dilemme. Mais je crois que la parole qui a été donnée a dû certainement, puisqu'elle venait de Dieu, toucher profondément le cœur de cette femme, au point de se dire, sur cette parole, je vais y mettre foi. Sur ta parole, Seigneur, je jette le filet. Sur ta parole, je fais le tour de Jéricho. Sur ta parole, Seigneur, je vais faire ce gâteau. Et le texte nous dit qu'il y avait une parole, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'à au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface. Ça veut dire que Dieu a prévu déjà une autre manière de faire. Certains se seraient dit, mais c'est magnifique, il y a de la farine, il y a de l'huile, allons-y. Mais Dieu lui dit, jusqu'au jour où ? On doit être prêt aussi au changement dans notre vie. On ne peut pas s'installer dans un fonctionnement parce qu'il nous convient. Alors certes, Dieu est le secours de nos vies. Mais il y a un moment où Dieu nous dit maintenant, tu as été secouru, sois toi aussi un secours pour les autres. Sois aussi prêt et prête à donner aux autres. Et c'est ce que cette femme, elle va faire. Et il dit le texte qu'elle mangea longtemps, elle et sa famille, ainsi que l'homme de Dieu. Béni soit l'Éternel, même s'il nous demande d'être dépendants de plus faibles que nous. C'est pas évident, hein. C'est pas évident de s'attendre à Dieu quand on n'a plus rien dans les placards. C'est pas évident de dire « Seigneur, merci pour le repas d'aujourd'hui alors que tu n'as rien dans l'assiette. » Il n'y a rien dans la casserole. Il n'y a rien dans le frigo. Et tu te dis « Mais finalement, qu'est-ce que je fais ? C'est de la folie. C'est pas possible. » Sauf que Dieu est capable de faire quelque chose qui te dépasse. Il est capable de envoyer quelqu'un te nourrir alors que toi, tu n'as rien dit. Si on donnait parole ce matin, beaucoup pourraient témoigner d'avoir vu la main de Dieu agir en cette manière-là. Et je crois qu'il est important de croire que Dieu est capable de le faire encore aujourd'hui. Là où nous disons, Seigneur, je n'ai plus rien, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire, mais Dieu pourvoira. Amen. On va lire un autre texte encore? Allez. 2 Rois chapitre 3, versets 16 à 20. C'est une histoire particulière parce que c'est face à Josaphat, un roi qui était rebelle. Et là aussi, il y aura une parole, et parce que Dieu veut sauver le peuple. Il dit ainsi, parle l'Éternel, fais dans ce vallon des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous ne verrez pas de vent et vous ne verrez pas de pluie, mais ce vallon se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'importance. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous bûcherez toutes les sources d'eau et vous causerez des dommages avec des pierres à tous les meilleurs terrains. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici que l'eau arriva du côté des Dômes et le pays fut rempli d'eau. Amen. Ils avaient soif. Il n'y avait pas d'eau. L'ennemi, il les avait entourés. Ils étaient enfermés. Ils étaient enclavés. Il n'y avait pas de voie de sortie. Et ils vont chercher finalement un homme de Dieu pour leur dire ce qu'il fallait faire. Mais leur attitude de cœur était contraire à la volonté de Dieu. Mais Dieu a voulu manifester sa puissance auprès du peuple. Et il leur dit, creusez. On pourrait se dire, mais Seigneur, c'est du travail inutile. Pourquoi creuser? En plus, la terre qui n'a pas pris d'eau, elle est dure comme du béton. Non? Seigneur, c'est poussiéreux. On est en plein combat. Ce n'est pas le moment de se mettre à creuser des tours, si ce n'est pour faire des... Non, pire, des tombes. Hein? Seigneur, tu nous dis de creuser. On est en train de creuser notre tombe, là. Le ciel, il n'y a pas de nuages. Seigneur, il n'y a pas de solution. Humainement, on ne peut pas prévoir la pluie comme ça. Ils ont appelé TF1, ils ont appelé tous les réseaux pour savoir s'il y avait une prévision de pluie. France Info, oui, si vous voulez aussi. Ah, ils disent non, pas de pluie. Pas de pluie. Je me rappelle d'un dimanche matin, on était sur Besançon. Et sincèrement, la météo donnait beau temps. Magnifique. Mais il y a un chant que j'aime beaucoup qui dit « On voit la pluie ». Et on l'a chanté ce dimanche matin. Et au moment de la prédication, il s'est mis à pleuvoir. Les musiciens, ils m'ont dit « On ne le chante plus comme ça hein. ». Il dit « Pour une journée qu'on a du beau temps, tu nous fais revenir la pluie ». J'ai dit « Mais ce n'est pas ça. Ce qu'on demande, c'est la pluie de la bénédiction, n'est-ce pas ?» Même quand nous, on voit que le ciel... est fermé, on a le sentiment que rien de bon peut venir. Mais si Dieu te dit de faire un travail, fais-le. Ah Seigneur, si je ne vois pas où je vais, je ne bougerai pas. Ah Seigneur, si je ne vois pas quelle est la promesse d'embauche au bout, je ne le ferai pas. Mais moi je crois que si tu fais confiance à Dieu, tu dois y aller. Si tu as prié, et que Dieu t'a ouvert les portes, ou tu fais le pas de foi jusqu'à la fin, ou autrement, c'est inutile, tu dis, Seigneur, non, cette solution ne me plaît pas, est-ce que tu peux m'en donner une autre? Ce n'est pas la MPE. Hein. Non. Si c'est une solution de Dieu, moi je crois à cela, vous m'excusez. Hein. Déjà, attention à mettre toujours, Dieu m'a dit, Dieu a fait, c'est ça, et après, en effet, on s'est planté parce qu'on n'a pas écouté Dieu dès le départ. Et je crois que Dieu ne se trompe pas, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu me dit que la bénédiction de Dieu, elle est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire que si Dieu m'envoie dans un endroit, même s'il va y avoir des difficultés, je suis là parce que Dieu a voulu que je sois là. Et dans les difficultés, Dieu se glorifiera. On dit Amen, mais quand on y est, on se dit, oh là, où est-ce que tu m'as emmené, Seigneur? Ah, moi, je vous assure, je l'ai vécu, ça, c'est horrible. Hein. Perdu le travail parce que j'ai obéi au Seigneur. Terrible. Hein. Je rentre et je n'ai plus de travail. Et je dis, Seigneur, je fais quoi? Et Seigneur me met sur le cœur, prends du temps, prie. Une semaine, deux semaines, trois semaines. Et là, je dis, Seigneur, il faut que quelque chose bouge, il faut que je nourrisse le peuple à la maison. Vous savez, deux enfants, comme les miens, il faut les nourrir. 4 heures, c'est 4 heures. 4 heures pile, il y a le goûter, hein. Ça ne se discute pas. Midi, le soir, le matin, quand c'est l'heure de manger, ça mange. Et là, je dis, Seigneur, il faut que tu viennes à mon aide. Et d'un coup, une voisine, tu fais quoi ? Je bricole. Et ça va ? Je dis, non, je n'ai pas de boulot. Tu as déjà préparé un CV ? Non. Mon Seigneur m'a dit, mets-toi à part. Je me suis mis à part. Hein. Et dit, donne-moi ton CV. Je vais le donner à quelqu'un. On ne sait pas. Il y avait eu des milliers de licenciements. La région était dévastée dans la situation. Elle donne ce CV, je ne sais pas qui. Et un jour, reçoit un coup de téléphone. Un monsieur qui m'appelle. Bonjour, monsieur. Je vous appelle. Alors, comment vous allez ? Je dis, bien, mais je n'ai pas de travail. Elle dit, ben, vous venez lundi, on va faire un essai. Alors moi, j'arrive en plein été, bien habillé, petite chemise, petit jean, tout bien. Et j'arrive là-bas, moins 30 degrés. Direct, je suis devenu bleu comme les schtroumpfs. Et le monsieur me dit, ben voilà, on va vous prêter une petite veste. Bon, vu le bonhomme, il fallait une grande veste. Et dit, derrière, vous avez du matériel qui arrive, il y a des cochons pendus. Il faut décharger le camion. Ils ouvrent la porte du camion et l'odeur. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, dans ta parole, il y a écrit de ne pas toucher les cochons, c'est impur. Hein ? J'ai essayé. Le Seigneur m'a dit, non, rentre et pousse les cochons. Et vous savez, à partir de ce jour-là, combien de possibilités le Seigneur m'a accordé de pouvoir témoigner de lui. Et dans cette entreprise, j'ai pu travailler jusqu'au moment où je suis rentré à plein temps pour l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur m'a donné une liberté au niveau du temps, au niveau des... Et Dieu a pourvu à tous nos besoins. Combien est important pour nous de dire, Seigneur, tu me dis de le faire, je le fais, je t'obéis. Ce n'est pas forcément évident, mais Seigneur, parce que tu me le dis, je le fais. Et le Seigneur est capable de faire tomber l'eau là où il n'y en avait pas. Alors j'aimerais conclure. Ce dernier texte, Apocalypse chapitre 3, versets 10 à 12. Parce que le but pour nous, ce n'est pas seulement de dire nous avons reçu la bénédiction, nous avons reçu ce que nous avions besoin pour manger, nous avons obtenu ce que nous avions besoin dans nos combats, dans notre travail, dans notre vie de tous les jours. Mais regardez la promesse par rapport au fait de garder la parole de Dieu. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. C'est quoi cette persévérance ? C'est quoi la parole de la persévérance ? La foi. Tu as persévéré parce que tu as cru jusqu'au bout. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, dit le Seigneur. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne te prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Amen. Sur qui Dieu fera ceci ? Sur celui qui aura observé, gardé, la parole de la persévérance en Dieu. Celui qui aura obéi à la parole de Dieu jusqu'au bout. Et ce n'est pas juste dans les occasions où ça nous arrange. Parce qu'on cherche bien les bénédictions dans la Bible. Beaucoup de Bibles ont toutes les bénédictions soulignées. C'est vrai ou pas ? Hein ? On les souligne, on les met en stabilo. Et quand il y a un problème, « Oh Seigneur, tu as dit de ne pas m'inquiéter parce que tu me nourriras, tu ceci et tu cela. » Mais va un peu plus haut dans le texte et dis « Si tu obéis, et tu vas un peu plus bas, si tu fais ce que je te dis. » Mais là, nous, on prend ce qui nous arrange. Non ? Mais je crois que dans la parole, ce n'est pas juste écrit « fait » ou « dit ». Dans la parole, c'est écrit « soit ». Sois un homme de foi. Sois une femme de foi. soit un homme de prière, soit une femme de prière, soit un homme qui a donné son cœur au Seigneur et qui écoute la parole de Dieu et qui la met sur son cœur et qui la garde sur son cœur. Même lorsque les conditions elles sont pas évidentes. Vous croyez que pour Moïse, ça a été évident de marcher 40 ans avec un peuple qui était têtu? Non, je crois pas. Est-ce que vous pensez que pour David, ça a été facile de régner? Non, je crois pas. Est-ce que vous pensez que pour l'apôtre Paul, ça a été facile d'ouvrir des églises où Dieu l'a envoyé? Je ne crois pas. Et pourquoi ce serait plus simple pour vous et pour moi? Dites-moi. Est-ce que nous n'avons pas, nous aussi, à prendre notre part dans ce travail? Et si ça demande du sacrifice, mais fais-le pour le Seigneur. Si ça te demande d'entendre les autres peut-être ricaner derrière toi, fais ce que Dieu te demande et après laisse Dieu te donner la victoire. Il y a des murailles qui doivent tomber? Témoigne du Seigneur et les murailles tomberont. Vous savez, dans cette entreprise-là où je vous parlais tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'ai pas commencé à sortir le drapeau, je suis chrétien, alléluia, je chante tous les... Non, j'ai laissé Dieu faire. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui dois conduire les choses. Et tous les jours, j'avais des collègues qui venaient me voir et qui commençaient à m'ouvrir leur cœur et me parler. Et me disaient, mais je comprends pas pourquoi je me sens libre de te parler. Et un jour, c'est mon chef qui est venu me voir. Il dit, écoute, je comprends pas, il y a une procession devant où tu es. Chacun vient te voir pour parler. J'ai dit, peut-être parce que j'ai juste appris à écouter. Et vous, pourquoi vous êtes là? Et il m'a ouvert son cœur. Et j'ai pu lui parler du Seigneur. Alors vous savez, je crois que il y a différentes manières de témoigner. Mais il y a un seul témoignage à donner. Il y a différentes manières de manifester l'amour de Dieu. Mais il y a un seul et vrai amour de Dieu. On est tous différents. Il y en a qui sont très réservés, un peu comme Gédéon. Alors je voudrais vous dire ce matin, va avec la force que tu as. Remporte les victoires que Dieu a déjà préparées pour toi. Peut-être d'autres sont comme Josué qui était là et qui... Ben, souvenez-vous, premier chapitre de Josué, qu'est-ce qu'il a écrit? Ne t'inquiète pas, prends courage. Il lui dit combien de fois? Plusieurs fois, ça veut dire que Josué avait lui aussi peur de la responsabilité. Mais est-ce que Dieu l'a jamais abandonné? Non, il lui a dit, je serai avec toi comme j'étais avec mon serviteur Moïse. Mon frère, ma sœur, quel qu'il soit le lieu où Dieu t'envoie, cherche la parole de Dieu qui est pour toi, celle qui vient d'en haut. Et lorsque tu l'auras dans ton cœur, serre-la très fort. Ne laisse pas l'ennemi venir te la voler, cette parole, parce que l'ennemi va essayer de te voler la bénédiction. Et la plus grande bénédiction, ce n'est pas le compte en banque. Hein. La plus grande bénédiction, c'est quoi? Si ce n'est la paix entre Dieu et nous. Si ce n'est cette relation où nous savons que nous sommes là où Dieu nous veut, nous sommes là où Dieu nous attend, nous sommes là en faisant ce que Dieu veut et attend de nous. Et là, c'est la bénédiction. Et souvenez-vous de ce texte qui dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Qu'est-ce qu'il dit le texte? Vous vous rappelez? Oh, comme il est bon et agréable que des frères et sœurs. Ah! Alors, qu'est-ce que ça vient faire ce texte dans la prédication de ce matin? Mais je vais vous dire tout simplement, c'est une parole de Dieu. Et la communion fraternelle, ce n'est pas quand j'en ai envie, quand ça m'arrange et quand j'ai un problème. La communion fraternelle, elle devrait être pour nous un mode de vie. Alors, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des occasions où, malheureusement, on est en péché. Mais que ça ne dépende pas de nous. Parce que quand ça dépend de nous, frères et sœurs, c'est nous qui désobéissons à ce que Dieu attend de nous. Parce que, croyez-moi, même s'il n'y en a que deux ou trois qui s'assemblent, le Seigneur sera parmi eux. Et c'est nous qui ne venons pas, qui nous nous privons de ce que Dieu a prévu pour nous ce jour-là. Le gâteau, il est là. Il y en aura plus pour eux. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Seigneur, encore par ta parole, Seigneur, nous apprenons que nous avons, Seigneur, bien des obstacles qui sont sur notre chemin et devant lesquels nous allons devoir, Seigneur, chercher ta face, chercher ta volonté, Seigneur, et agir en conséquence. Seigneur, certainement parmi nous ce matin, beaucoup ont, Seigneur, entendu. Et pour certains, ça a résonné d'une manière particulière, une partie, pour d'autres, une autre partie du texte, une autre partie de la prédication. Mais si tu as permis ce matin qu'on puisse parler de ça, c'est parce que, Seigneur, tu avais un message à livrer pour chacun de nous. Alors, Seigneur, pour celui qui est face à un mur, Seigneur, accorde-lui cette sagesse de marcher en ton nom. En obéissant à ta volonté, en témoignant de ton amour et de ta fidélité. Et c'est toi qui accompliras le miracle, Seigneur. Pour celui, Seigneur, qui est dans le besoin, Seigneur, tu permettras, Seigneur, de multiplier ses moyens parce que ça sera la bénédiction qui vient d'en haut. Seigneur, pour celui qui se trouve face à un problème de travail, Seigneur, c'est toi aussi qui ouvriras les portes et qui agiras. Seigneur, pour celui ou celle qui a un besoin, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, dans son cœur, de prendre, Seigneur, et de faire un pas de foi avec lui-même, de mettre de côté toutes ses réserves, toutes ses craintes, Seigneur. Je te prie encore ce matin, renouvelle son cœur et son âme. Seigneur, que ta parole puisse retentir dans son cœur, haut et fort. Seigneur, et qu'il puisse sentir, Seigneur, qu'il y a quelque chose qui vient d'en haut pour l'interpeller. Seigneur, tout cela est impossible si le Saint-Esprit n'agit pas. Et pour cela, nous te disons, Seigneur, encore ce matin, remplis-nous de ton esprit. Rends-nous sensibles à ton esprit, Seigneur. Transforme nos cœurs, Seigneur. Transforme nos vies, Seigneur. Et Seigneur, si encore dans notre vie, il y a une forme d'égoïsme, si encore dans notre vie, Seigneur, nous sommes dans des positions contraires à ta volonté, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur, si nous n'avons pas encore compris qui tu es. Fais preuve encore, Seigneur, de patience, s'il te plaît. Et Seigneur, interpelle le cœur de chacun. Père éternel, qu'à toi revienne toute la gloire, au siècle des siècles. Amen.